Bonjour. Sur fond de controverses environnementales et d'échec des négociations sur le budget de l'Union européenne, Emmanuel Macron au salon de l'agriculture ce matin où nous serons dès le début de ce journal. Le président de la République ira notamment à la rencontre des viticulteurs touchés, on le verra, par des sanctions douanières américaines punitives. Le cœur serré, habitant de Fessenheim, salarié de la centrale nucléaire, le premier des deux réacteurs a été débranché cette nuit des actions prévues dans la journée. Des sujets que vous aborderez avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, le député La République En Marche, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. Question en général aussi sur la gouvernance Macron.
Le nouveau coronavirus, un premier cas mortel d'un Européen, un Italien de 78 ans qui ne revenait pas de Chine. L'Organisation mondiale de la santé demande une action immédiate à la communauté internationale. Pays de Galles, France, au programme du 15 de France de rugby cet après-midi, tournoi des Six Nations aussi, au programme du journal des sports de Guillaume Batin dans 10 minutes. Et puis une nuit au Louvre, c'est possible tout ce week-end. Corinne Pellissier a testé pour nous.
France Inter.
C'est donc sans accord sur la PAC, la politique agricole commune européenne, que vient Emmanuel Macron, le président de la République, inaugure le 57e salon de l'agriculture qui ouvre ses portes au public dans une heure maintenant. Alors qu'hier, les 27 se sont séparés sur un échec, pas de compromis sur le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, après le départ du Royaume-Uni donc. Il faut encore du temps, plaide le président du Conseil européen Charles Michel. Emmanuel Macron lui avait fait du maintien de l'enveloppe de la PAC pour la France, 9 milliards d'euros par an, une priorité. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
C'est dans ce contexte que le chef de l'État va à la rencontre des agriculteurs porte de Versailles à Paris. Où vous vous trouvez, Cyril ?
Et clairement, le programme du président est bousculé par l'échec hier de ces négociations cruciales pour les agriculteurs. Mais il a tenu à être rassurant à son départ du sommet. Nous n'avons pas sacrifié la politique agricole commune et je l'ai dit très clairement, ce n'est pas la PAC qui peut payer pour le Brexit. Emmanuel Macron est attendu dans les prochains instants ici au salon. Il y avait une incertitude quant à son heure d'arrivée ce matin, justement en raison de ce conseil et de sa fin tardive. Alors après les 14 heures passées l'an dernier dans les allées, l'Elysée a déjà prévenu, non, le président ne se place pas dans la perspective d'un record à battre, mais il compte aller à la rencontre de ceux qui ont des inquiétudes les plus marquées. Après un passage obligé devant l'égérie du salon, la vache charolaise idéale, arrivée hier de ses prairies de Cours-la-Ville, Emmanuel Macron rencontrera les éleveurs, une profession fragile économiquement. Au programme, passage obligé par les viticulteurs touchés par des sanctions douanières punitives américaines ou encore les pêcheurs que le Brexit risque de couler. Hier, dans une interview publiée dans la presse régionale, le chef de l'État annonçait qu'il ne tolérerait aucune violence à l'encontre des agriculteurs. Il veut marcher dans les pas de l'un de ses prédécesseurs à qui il sera rendu hommage dans les prochaines minutes puisque l'entrée du salon est jonchée de photos de Jacques Chirac, qui a toujours été le chouchou ici.
Cyril Graziani avec les moyens techniques de Georges Thau. Merci à tous les deux. Et vous l'avez dit Cyril, les viticulteurs espèrent un coup de main de la part d'Emmanuel Macron, mais également du PDG d'Airbus qui est attendu au salon de l'agriculture cette semaine concernant les droits de douane de 25% mis en place par les États-Unis il y a quelques mois. Des représailles au traitement préférentiel que l'Union européenne accorderait à Airbus selon eux et qui a pour conséquence, Manuel Ruffez, une baisse des ventes de vin aux États-Unis.
Les viticulteurs français parlent à ce jour d'une perte de part de marché de 50 millions d'euros. Ces droits de douane de 25% leur coûtent 250 millions d'euros de taxes supplémentaires. Et tout ça, explique Jérôme Despé, viticulteur et secrétaire général de la FNSEA, pour un conflit commercial qui ne les regarde pas.
Le secteur viticole est au cœur d'un conflit qui n'est pas le sien, auquel nous payons un lourd tribut depuis le 18 octobre, puisque c'est un impact de 300 millions d'euros d'impact pour la filière donc viticole, avec des marchés qui se stoppent, avec des commandes donc qui s'arrêtent, et surtout des pertes de parts de marché.
Alors ils demandent de l'aide pour les soutenir, la création d'un fonds de compensation. Et il compte bien sur la participation de tous, y compris Airbus.
Il faut un cadre d'un fonds de compensation qu'il faudra donc alimenter. Alors là, par l'État français, par l'Union européenne, pourquoi pas par Airbus. Aussi trouver des moyens pour pouvoir nous favoriser à exporter nos palettes donc de vin à l'étranger pour faire cesser donc ces sanctions qui ont un lourd préjudice pour l'agriculture au niveau européen et pour la viticulture en particulier au niveau français.
La France vendait jusque-là par an pour plus d'1 milliard de dollars de vin aux États-Unis.
Manuel Ruffez.
Un seul réacteur est désormais en activité à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace.
Le premier a été débranché cette nuit vers 2h. L'autre le sera le 30 juin prochain. La fin d'année de débats et de reports concernant la plus vieille centrale du pays. La France veut réduire la part du nucléaire, augmenter les énergies renouvelables. Fermer Fessenheim, une victoire pour les antinucléaires. Incompréhensible pour les salariés et toute cette petite commune du Haut-Rhin, comme cette habitante qu'a rencontré Patrick Janton à l'occasion d'une veillée mortuaire hier soir.
Je perds ma fille, mon gendre et mes petits-enfants qui vont devoir partir je ne sais où. C'est quand même quelque chose d'important, cette centrale, pour toute une commune, les communes avoisinantes, qui donnent quand même pas mal de travail, quoi. Je suis pas contente du tout parce qu'on ferme cette centrale qui donne du travail à beaucoup, beaucoup de monde. On va chercher maintenant de l'électricité en Allemagne alors que là-bas, ils la produisent avec du charbon. Il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Très triste, très en colère aussi. Parce qu'on va pas me raconter que le nucléaire est plus nocif que du charbon.
Et des salariés ont prévu de manifester devant la centrale ce matin. Des élus du secteur veulent également se faire entendre, tout comme des associations de défense de l'environnement.
Il est le premier Européen mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus.
Un Italien de 78 ans hospitalisé dans le nord du pays, mais pour une autre pathologie. Et cet homme ne rentrait pas de Chine. Les conditions de son infection ne sont pas encore formellement établies. L'Italie, en tout cas, qui prend des mesures. Les lieux publics de 11 communes du nord sont fermés. Plus de 50 000 personnes confinées chez elles. Et l'OMS qui s'inquiète car les médecins n'expliquent pas pour le moment plusieurs cas apparus en dehors de la Chine. L'Organisation mondiale de la santé qui appelle à une action internationale, Jérémy Lanche.
L'OMS le rappelle depuis le début, le nombre de nouveaux cas de coronavirus ne doit pas être le seul baromètre de la gravité de la situation. Et ce, d'autant plus que la Chine a de nouveau changé sa manière de comptabiliser les malades. Cela pourrait expliquer en partie la baisse constatée ces derniers jours. Mais l'agence se dit maintenant préoccupée par ce qu'il se passe dans d'autres pays, notamment en Iran, qui a annoncé 18 cas et 4 morts depuis mercredi. Le virus s'est également déclaré au Liban. Tedros Ghebreyesus est le directeur général de l'OMS.
Même si les cas reportés en dehors de la Chine restent peu nombreux, le fait que certains ne peuvent être reliés à Wuhan ou à la Chine, c'est très inquiétant. Ce que je crois, c'est que la fenêtre de tir pour éliminer le coronavirus est toujours là, mais elle se rétrécit. Nous avons demandé une réponse rapide de la communauté internationale, y compris en matière de financement, mais ce n'est pas ce que nous constatons.
675 millions de dollars sont nécessaires pour aider les pays les moins préparés à affronter le coronavirus, mais les donateurs ne semblent pas se bousculer pour alimenter le fonds. Quant au risque d'une pénurie de matériel de protection, un risque réel selon l'agence, le patron de l'OMS a écrit à plusieurs fabricants pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de livraison. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Une équipe d'experts chinois et de l'OMS va se rendre aujourd'hui dans l'épicentre de l'épidémie à Wuhan en Chine. Les autorités chinoises qui estiment ce matin que la période d'incubation du coronavirus pourrait atteindre les 27 jours. Les scientifiques estimaient jusqu'à présent cette période à 14 jours. Une opération conjointe depuis le début du mois entre les forces armées nigériennes et la force française Barkhane dans le sud-ouest du Niger. 120 personnes qualifiées de terroristes par le ministre nigérien de la Défense auraient été neutralisées, pour reprendre son expression. 22 ans et un doublé, Alexandre Kantorov, récompensé aux victoires de la musique classique hier soir comme soliste instrumental au piano, mais également dans la catégorie enregistrement.
Une question pour terminer. Qui n'a jamais rêvé de passer une nuit dans un musée?
En compagnie de grandes œuvres et puis l'esprit aussi de Léonard de Vinci, à la grande expo consacrée au génie de la Renaissance s'achève mardi prochain, mais Louvre propose tout ce week-end au public 3 nuits gratuites, plus de 30 000 billets réservés. Corinne Pellissier a passé plusieurs heures auprès des visiteurs. Reportage entre la nuit au musée et le fantôme Belphégor.
Laisse-moi aller au Louvre.
En quel prix ?
Il est peut-être revenu.
Pas de fantôme cette nuit dans les allées du Louvre, mais l'esprit de Léonard, ses chefs-d'œuvre, ses croquis, ses recherches sur les proportions, la lumière. Une nuit entière pour suspendre le temps et laisser place à la rencontre.
C'est ce petit cachet de venir au Louvre à 23h et d'entrer sous la pyramide et profiter de l'exposition comme ça, c'est sympa.
Je sais pas si on a trouvé l'esprit de Léonard, en tout cas on a été très convaincus par ce qu'on a vu.
Très intéressant, c'est hyper complet. Du coup, je pense au film La nuit au musée. Donc, c'est une aventure et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va tomber au détour des pièces.
Une affluence quasiment comme en plein jour, mais le sentiment pourtant d'un moment magique.
Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de monde quand même. C'est pas trop dérangeant. C'était parfait, ça permettait de se retrouver avant, de boire un verre et puis de venir tous ensemble.
Un accueil sur mesure, boisson chaude et madeleine.
Vous avez du thé ?
C'est un peu un rêve de gosse en fait.
Ouais, et en plus on voit le musée sous un œil complètement différent parce qu'habituellement à 18h ou 20h, je sais pas quelle heure faire le musée en nocturne, mais...
Non, tu sais plutôt.
Et tu manges des gâteaux en plus.
Un succès à la hauteur de l'événement, c'est la première fois qu'un musée français proposait une ouverture nocturne aussi large.
Je dirais qu'il y a un côté un petit peu plus aventure, excitation.
interdit.
Le public en redemande déjà.
Pourquoi pas refaire ça avec les expositions permanentes, ce serait vraiment super.
Voilà, reportage signé Corinne Pellissier. On connaîtra le nombre de visiteurs précis pas avant mardi, mais on s'attend évidemment à un record.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.